Ce soir, nous recevons Marc Fontcave, qui est professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France et au CEA, pour une conférence qu'il a intitulée « Chimie et défis énergétiques du XXIe siècle, des carburants à partir d'eau et de soleil ». C'est donc la deuxième conférence sur les problèmes de l'énergie que propose l'Université de Tous les Savoirs, dans le cadre de ce cycle de conférences qui se terminera dimanche 29 mai. Je voulais vous rappeler également que les 17, 18 et 19 juin se dérouleront à Versailles les seconds entretiens du jeu de paume sur le thème de la séparation des pouvoirs, et vous pouvez trouver le programme dans le hall de cette salle. Vous savez que l'UTLS est diffusé sur un certain nombre de sites, et vous pouvez les trouver dans la brochure qui est à l'entrée de la salle et sur Internet. Toutes les conférences sont filmées, enregistrées, et vous pouvez ensuite les regarder sans limitation de durée sur le site www.utls.fr. Nous revenons donc à la conférence de ce soir, « Chimie et défis énergétiques du XXIe siècle, des carburants à partir d'eau et de soleil ». Marc Fontcave est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques. Il va nous dire comment, effectivement, dans la chimie qu'il pratique et que pratiquent ses collaborateurs dans son laboratoire à Grenoble, eh bien, on s'inspire de la nature pour faire des choses utiles. Il a été formé à l'École normale supérieure de Cachan, agrégé, docteur d'État. Ensuite, il a fait un début de carrière au CNRS, puis professeur à l'Université Joseph Fourier à Grenoble, et depuis 2008, il est professeur au Collège de France. Un point qui intéressera tous les Parisiens, parce que cela veut dire que le conseil scientifique de la ville de Paris est bien géré. Marc Fontcave est président du conseil scientifique de la ville de Paris. Je ne vous dirai rien de ces 274 publications. Je pense qu'il va nous donner maintenant l'essentiel de ses résultats dans le cadre de cette conférence. Marc Fontcave, merci d'être là.
Mesdames, Messieurs, j'espère que vous m'entendez. Merci Michel, je suis très heureux, et merci à l'Université de Tous les Savoirs de faire cet effort immense pour porter la science auprès de tous. Je suis très heureux d'être là pour deux raisons. La première, c'est pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'énergie est le grand défi de l'humanité du XXIe siècle. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est l'occasion de dire que cette discipline, la chimie, un peu particulière, va jouer un rôle majeur dans le développement des nouvelles technologies pour l'énergie. Je vais vous parler du soleil et d'un certain nombre d'applications. Je veux simplement préciser que je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule solution. Faites attention à ceux qui disent l'avenir sera nucléaire ou ne sera pas, ou sera solaire ou ne sera pas, etc., etc. Je pense que à la fois l'un des intérêts de ce domaine et à la fois la difficulté, c'est que pour le moment, on est obligé de considérer l'ensemble des scénarios. C'est difficile, ça coûte cher, mais je crois qu'il faut explorer toutes les possibilités. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas un expert de tous les domaines dont je vais vous parler. Je ne suis ni journaliste, ni homme politique pour avoir un point de vue sur tout. Donc il y a certains sujets que je survolerai, d'autres où je serai plus précis, et je vais commencer par ma vision du problème, de l'énergie et puis du solaire, et puis je vous dirai à la fin, et là ça sera peut-être un peu plus spécialisé, mais j'essaierai d'être clair et simple, compréhensible, quelques recherches qui se développent dans mon laboratoire et autour de ce thème dans un certain nombre de laboratoires. Je vais, si vous voulez, parler assez rapidement du contexte énergétique mondial général, mais celui-là, beaucoup de gens commencent à le connaître, mais c'est quand même bien de répéter un certain nombre de choses. Je parlerai du soleil, je dirai quelques mots sur les biocarburants, et je parlerai d'hydrogène et de photosynthèse artificielle. Il faut qu'on se projette. Comme l'indique ici Mark Twain, c'est pas très facile. Vous voyez, il est difficile de faire des prédictions, en particulier en ce qui concerne le futur, et pourtant c'est ce qu'on est un peu obligé de faire. Avant de commencer, je vais utiliser, je suis désolé, mais un certain nombre d'unités physiques. On pourra parler de joules, c'est de l'énergie, de watts, c'est de la puissance, c'est un joule par seconde, de kilowattheure, et puis il y a des unités un peu plus spécifiques, une tonne d'équivalent pétrole, un baril de pétrole, etc. Ici, ce qui est important, c'est parce que je serai obligé de parler en ces termes. Lorsque je dirai méga, c'est 10 puissance 6, 1 million, giga, c'est 10 puissance 9, tera, 10 puissance 12. On est obligé de parler ainsi parce que les nombres que je vais manipuler sont des nombres très, très élevés. Pour vous donner un ordre de grandeur des puissances qu'on manipule, 1 watt, c'est la puissance consommée par un ordinateur, 1000 fois plus 1 kilowatt, c'est un grille-pain. 1 mégawatt, vous voyez, 10 puissance 6, c'est un avion. Le gigawatt, c'est à peu près la puissance d'une centrale nucléaire. Et le terawatt, c'est, vous voyez, 1000 fois plus, c'est à peu près la consommation électrique consommée par l'humanité. Et ici, ce sont des puissances. Souvent, je parlerai en puissance, mais si vous voulez calculer la quantité d'énergie consommée pendant un certain temps, voilà, sachant qu'un joule, c'est 1 watt par seconde, il faudra multiplier la puissance que je donne par le temps pendant lequel cette puissance est consommée. Aujourd'hui, je vais le redire, mais la population mondiale sur la Terre, nous consommons entre 13 et 14 terawatts. Cette image, c'est juste pour vous montrer l'inégalité dans laquelle on se trouve à l'échelle de la planète. C'est une carte de la Terre la nuit, et vous voyez qu'il y a des espaces absolument immenses dans lesquels il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il y a des milliards de personnes à la surface de la Terre qui ne voient jamais la moindre énergie électrique. C'est important de le dire parce que on a tendance à dire dans nos pays que la solution, c'est que tout le monde se serre la ceinture et diminue sa consommation d'énergie. Effectivement, c'est valable pour nos pays, mais c'est pas la seule solution parce que, au contraire, il y a des tas de gens dans le monde qui aspirent à un peu d'électrons et un peu d'électricité. Quel est le contexte ? En effet, la perspective, c'est un doublement de la consommation énergétique. Pour plusieurs raisons, donc passer de 13 à 26 terawatts, c'est à la fois... vous voyez, ces calculs sont faits sur la base d'une croissance économique moyenne de 1,6%, alors c'est très variable d'un pays à l'autre, et puis une certaine quantité d'énergie utilisée par personne au cours d'une vie. Donc cet accroissement, il est lié d'une part à l'accroissement de la population mondiale. C'est à peu près clair qu'on va atteindre en 2050 à peu près 9 milliards d'habitants. Et évidemment parce qu'il y a des pays, et en particulier les plus nombreux, enfin où la population est la plus grande, qui sont en pleine croissance, comme la Chine et l'Inde en particulier, chacun avec plus d'un milliard d'habitants. Le deuxième point qui est à l'origine de cette question, c'est évidemment l'épuisement des réserves carbonées fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Vous savez qu'aujourd'hui c'est à peu près 80% de notre énergie qui vient de l'utilisation de ces sources non renouvelables. Alors ici j'ai donné quelques chiffres. C'est très difficile d'avoir les vrais chiffres, de savoir réellement où est-ce qu'on en est. Donc ce sont des ordres de grandeur, vous voyez, avec des erreurs, mais on peut penser que le pétrole c'est 50-100 ans et le charbon et le gaz c'est entre 200 et 500 ans. Alors vous pouvez dire on a le temps, mais il faut quand même commencer, je pense, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler tout de suite. Et en même temps, parce qu'on se dit parfois on a le temps, évidemment, il n'y a pas les efforts nécessaires pour remplacer ces énergies. C'est vrai du nucléaire aussi. Alors évidemment, le statut du nucléaire aujourd'hui est un peu compliqué avec les événements japonais, mais souvenez-vous simplement que pour le moment, les nucléaires à l'échelle de la planète, c'est pas plus que 6%, et c'est 15% de l'électricité mondiale. Et de la même façon, l'uranium n'est pas une source renouvelable, et il y a des limites en termes de réserves. Évidemment, avec les surgénérateurs, les techniques à neutrons rapides, on peut espérer avoir de l'énergie nucléaire pour plus longtemps. Pardon. L'autre question, c'est évidemment la question de la limitation des gaz à effet de serre. Si en effet le CO2 est responsable du réchauffement climatique, il faut aussi arrêter de consommer des énergies carbonées pour limiter cette production de CO2. Et si vous voulez, il y a cette hypothèse qu'on est autour de 380 ppm en 2008. Actuellement 390, et l'idée c'est qu'il faut se limiter à pas plus de 500-550 ppm de CO2 si on ne veut pas que la température à l'échelle de la planète dépasse 2 ou 3 degrés, ce qui pourrait être insupportable. Je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste ni du climat ni de l'impact du CO2 sur la Terre. Donc voilà, vous voyez, entre 13 et 14 TWh, c'est la consommation, ça indique pétrole, gaz, charbon. Et vous voyez à peu près les proportions des différentes énergies, 6% pour le nucléaire. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est uniquement 2% à l'échelle de la planète. La biomasse, c'est quelque chose d'important, c'est renouvelable, mais je l'ai mis à part, parce qu'évidemment, il y a tout un tas de gens sur la planète, et en particulier les pays en voie de développement, des milliards de personnes qui tirent leur énergie de la combustion de la biomasse. L'hydroélectricité compte pour une quantité non négligeable. Juste un petit commentaire. C'est une figure qui est un peu compliquée, donc pas la peine de rentrer dans les détails, je vais tout de suite à la conclusion. C'est une courbe qui vient d'ailleurs de rapport du GIEC, qui indique que, voyez ici, vous avez en fonction du temps, la consommation d'énergie en terawatts. Donc, voilà, c'est croissant. Et l'idée, c'est de calculer. Et on a différentes courbes, vous voyez, 350 pour dire ppm de CO2, 450, 550, 750. Alors, ceci se lit de la façon suivante. Si on voulait limiter à 450 ppm la production de CO2 en 2050, ici, au moment où on aura 26-28 terawatts, il faudra en énergie non carbonée quelque chose qui est entre 10 et une dizaine et une vingtaine de terawatts. Sachant que une centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt, ce type d'analyse vous indique que si on voulait vraiment s'attaquer au problème du CO2, il faudrait construire l'équivalent, je ne dis pas qu'il faut le faire avec du nucléaire, mais il faudrait construire l'équivalent de 10 000 centrales nucléaires, énergie non carbonée, d'ici 2050. Il y en a à peu près 440. Vous imaginez l'énergie que ça représente et le coût que ça représente. Je dis cela non pas pour dire il faut faire ça avec du nucléaire, mais pour vous dire l'ampleur du problème et l'ampleur des investissements à mettre en place pour répondre à ce problème du CO2. Alors tous ceux qui nous annoncent, qui font des grands effets de manche en disant il y a qu'à, faut que s'arrêter à 550 ppm parce que ça sera 2 degrés de plus de la température, etc., et qui ne mettent pas en face les investissements nécessaires, soit ils ne le savent pas, soit ils nous trompent, mais ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il faut investir, et nous ne le faisons pas encore, alors on le fera peut-être un peu plus tard quand on sera un peu plus devant le mur, mais voilà la problématique. Le soleil. Alors évidemment, quel est le potentiel des énergies renouvelables? Si on abandonne le charbon, le pétrole, le gaz, si on ne veut pas trop faire de nucléaire, parce qu'on a vu les problèmes, il faut les régler, il faut aller regarder du côté des sources d'énergie renouvelables. Vous trouverez ce type d'analyse un peu partout. Mais ce qui est tout à fait... Alors c'est une échelle logarithmique, hein, faites attention. Ici, on a les 13 terawatts. Vous voyez que si on double, on passe ici. Hein, donc c'est en échelle logarithmique. Mais comme vous le voyez, si on compare la contribution potentielle de toutes les énergies renouvelables, clairement, c'est le soleil, avec ses 90 000, une centaine de mille de terawatts qui arrivent à la surface de la Terre, à comparer aux 13 ou aux 20 dont on aura besoin, ou aux 26 dont on aura besoin en 2050, c'est effectivement une source tout à fait considérable. C'est chaque jour, si vous voulez, il y a 7000 fois l'énergie dont nous avons besoin à l'échelle de la planète qui arrive par le soleil. Alors évidemment, toute cette énergie n'est pas facilement récupérable, il n'y en a qu'une proportion, mais c'est une source absolument énorme. Et évidemment, le Soleil va faire ça pendant encore quelques milliards d'années. Voilà. Alors, énergie solaire, oui, mais il y a deux grands problèmes à l'énergie solaire. Il y a d'une part le fait que la densité de puissance est faible. Hein, en moyenne, c'est 170 watts par mètre carré, alors que les carburants fossiles, c'est de l'ordre de 1000 à 10 000 watts par mètre carré. Et quand vous voyez les densités de puissance dans les utilisations finales, vous voyez, les maisons, c'est les plus faibles, mais les gratte-ciel, c'est de l'ordre de 3000 watts par mètre carré. Donc la densité naturelle d'énergie produite par surfacique produite par le Soleil est insuffisante. Et d'autre part, il y a l'intermittence. Évidemment, il y a des jours où il fait nuit, et il y a également des jours où il pleut, il y a des nuages, et où il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, certes le soleil, mais vraiment il y a un problème à la fois de concentration de l'énergie solaire et de stockage de l'énergie solaire, et ça c'est des grands sujets de recherche. Alors, première façon d'utiliser cette énergie solaire, je balaye très vite, vous avez peut-être entendu parler de ces choses-là déjà. Je ne suis pas spécialiste de photovoltaïque, je suis un petit peu ce qui se fait, mais c'est intéressant déjà, dans un premier temps, de voir que là, les chimistes jouent un rôle très important dans la découverte et l'optimisation de nouveaux matériaux, en particulier semi-conducteurs, qui sont utilisés dans le photovoltaïque. Donc ici, la stratégie photovoltaïque, c'est convertir l'énergie solaire en énergie électrique. Je ne rentre pas dans le détail de la science de cette conversion, mais ce qui est important ici, c'est que vous avez tout un tas de matériaux qui sont absolument nécessaires. Pour le moment, c'est essentiellement du silicium monocristallin ou polycristallin, mais on va vers des couches minces avec des matériaux plus différents, et puis on va même avec des polymères organiques qui ont des rendements énergétiques moins bons mais qui coûtent moins cher. Ici on peut arriver à des niveaux de l'ordre de 20 à 30% de rendement énergétique avec le photovoltaïque. Le problème, c'est qu'il faut travailler sur cette technologie pour diminuer le coût, on peut dire à la louche, d'un facteur 10. Vous voyez, à peu près le nucléaire, c'est 4 centimes le kilowattheure. Le photovoltaïque, c'est autour de 50 centimes le kilowattheure. Mais voilà, le jour où on sera... Parce que combien de panneaux photovoltaïques faut-il pour régler les problèmes? On trouve toujours que c'est trop. On dit la même chose des éoliennes. Enfin, on dit à peu près toutes les solutions qu'on propose ont toujours des inconvénients. Et des inconvénients qu'on juge suffisamment importants pour ne rien faire. Mais... le jour où on est en face du mur, j'ai pris comme exemple la consommation des États-Unis, c'est 3,3 térawatts. Vous voyez à quel point les États-Unis consomment l'énergie de la population mondiale. Hein. C'est 3,3 à comparer à 13, 14. Vous voyez un calcul avec une efficacité énergétique de 10%. C'est la taille d'un petit État que les États-Unis devraient consacrer au photovoltaïque pour avoir leur énergie totale. Bon, évidemment, les gens qui sont dans cet État-là ne seront sûrement pas d'accord. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur de ce que ça représente. Le problème, c'est qu'avec l'électricité, là, c'est transformation d'énergie solaire en électricité. Alors, quand c'est de l'électricité, c'est bien quand on l'utilise. Quand on ne l'utilise pas, on la perd. Alors, il y a tout le problème du stockage. Hein, et j'ai déjà évoqué ce problème du stockage est un problème majeur, peut-être dont on ne parle pas assez quand il s'agit d'énergie. Stockage de l'électricité, stockage de l'énergie solaire à cause de l'intermittence, enfin ainsi de suite. Alors une façon de le stocker, c'est les batteries. Alors là, je ne veux pas en dire plus. Il s'avère que ceux qui sont fidèles à ces conférences de la semaine ont entendu sans doute Jean-Marie Tarascon, qui est un grand spécialiste des batteries. Et là aussi, c'est un magnifique exemple de la force de la chimie, de l'importance de la chimie pour inventer des batteries qui soient moins coûteuses, qui aient une durée de vie plus longue, qui aient des densités énergétiques plus importantes. Mais voyez, le problème des batteries, c'est que les densités énergétiques sont faibles, de l'ordre de 0,5 mégajoules par kilo, alors que les carburants liquides, pétrole par exemple, vous voyez, c'est 100 fois plus. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut des volumes 100 fois plus grands pour la même quantité d'énergie. D'où le fait que dans les véhicules électriques, c'est quand même des très très grosses batteries qui sont prévues. Et donc là, il y a des enjeux. Le lithium devient un des éléments importants pour le développement, pour les nouveaux matériaux électrolytes pour les batteries. Je n'irai pas plus loin. Voilà. Donc ça, c'est conversion solaire électrique. Biocarburant. Alors, il y a une chose qui se passe à la surface de la planète en permanence, c'est le stockage de l'énergie solaire dans la biomasse. Les organismes vivants, naturels, un certain nombre de ces organismes ont une capacité de collecter l'énergie solaire et de transformer cette énergie en biomasse, la biomasse étant un ensemble de molécules, sucre, lipides, enfin un ensemble de molécules à haute valeur énergétique. Alors là, c'est de la, si vous voulez, c'est ce que fait la nature, c'est de stocker l'énergie solaire en biomasse. Et voyez que j'ai parlé de à peu près 100 000 térawatts qui nous arrivaient à la surface de la Terre avec le Soleil. C'est à peu près 100 térawatts qui sont stockés sous forme de biomasse. Donc vous voyez que théoriquement, finalement, si on utilisait cette biomasse, on en a largement assez à comparer aux 13 TWh. Bon, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, parce que effectivement, il y a d'autres utilisations de la biomasse à considérer, et pas uniquement pour faire des carburants. Donc ce processus-là, c'est un processus qui est absolument fascinant, dont je voudrais vous dire quelques mots. Ça conduit à prendre de la lumière du soleil, prendre de l'eau et transformer le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'atmosphère en toute une série de molécules organiques carbonées, riches en énergie. C'est ça la photosynthèse, c'est ce que fait la nature. Et à partir de là, l'homme a imaginé qu'une partie de cette biomasse pourrait être utilisée comme carburant, c'est-à-dire qu'en brûlant ces molécules carbonées, on redonne l'énergie qui avait été stockée par ce processus de photosynthèse. Donc je vais parler des biocarburants de première génération, puis de seconde génération et de biodiesel. Je veux simplement vous faire remarquer simplement que la nature, c'est un système tellement complexe, la photosynthèse, que la nature, pour le moment, ne fait pas mieux que quelques pourcents de rendement. La photosynthèse naturelle, c'est quelques pourcents de rendement. Il y a les plantes, les micro-organismes photosynthétiques perdent entre 95 et 99% de l'énergie solaire au cours de ce processus. Alors ça, c'est peut-être une des figures les plus compliquées, mais je vais quand même essayer de balayer ça très vite. Les organismes photosynthétiques, comme les plantes, comme les micro-algues, comme les cyanobactéries, ont toute une machinerie dans leur membrane, toute une machinerie protéique, qui permet de faire plusieurs choses. La première chose, c'est de capter l'énergie lumineuse, de capter les photons de la lumière. Donc il y a des molécules pour cela, et c'est ce qu'on appelle le photosystème 2, qui a été cristallisé et qui a valu un prix Nobel aux gens qui ont fait cela. Photosystème 2, stocke l'énergie lumineuse. Étant excité, ce système est alors capable d'oxyder l'eau qui devient de l'oxygène, et donc vous notez ici que dans le processus de photosynthèse, l'oxygène est en fait un sous-produit de la réaction. Tant mieux pour nous, parce que c'est justement un sous-produit qu'on utilise, mais ce n'est qu'un sous-produit de la photosynthèse. La nature ne fait pas tout ce processus pour produire de l'oxygène, mais pour tirer les électrons de l'eau qui se baladent tout le long d'un chemin de transfert d'électrons, et ces électrons arrivent au niveau du dioxyde de carbone pour, en quelque sorte, le transformer, le réduire en carburant cellulaire. Ce sont les sucres, les lipides, les protéines, enfin, etc., etc., toute la biomasse. Et finalement, j'ai présenté ceci ici pour vous dire que le système se réduit à ça. D'une part, des molécules qui captent les photons de la lumière, et puis une réaction de transfert d'électrons de l'eau, et ces électrons ensuite récupérés pour réduire le CO2 en sucre. Voilà. Je rajoute, parce que j'en reparlerai, il y a des micro-organismes photosynthétiques qui, parfois, n'utilisent pas les électrons qui viennent de là, qui viennent de l'eau, pour réduire le CO2, mais se mettent à réduire l'eau en hydrogène. Ce qui fait qu'au bout du compte, ces organismes produisent de l'hydrogène. Ils prennent, et donc c'est une réaction dont le bilan est très simple, de l'eau, du soleil, et je produis de l'hydrogène, qui est un carburant utilisé ensuite par les bactéries. Voilà, alors très rapidement, les biocarburants. Biocarburants de première génération, c'est donc première génération, ce sont les premiers carburants qui ont été développés, bioéthanol et biodiesel. Ici, la stratégie, c'est de récupérer toutes ces molécules organiques, notamment les sucres, les polysaccharides présents dans la betterave, la canne à sucre, le blé, le maïs, la pomme de terre, l'huile, enfin, pour le bioéthanol, et ensuite par des expériences de fermentation pour obtenir de l'éthanol à partir de ces sucres, et pour le mélanger à l'essence, l'éthanol étant utilisé donc comme carburant. Et les grands pays de production du bioéthanol, c'est le Brésil et ce sont les États-Unis. Le biodiesel, c'est l'utilisation des huiles, en particulier de colza et de tournesol. On en tire des esters d'huile et on le mélange au gazole. Et là, y a énormément de production, enfin, il y a très peu de production de biocarburants, mais la grande partie se fait dans l'Union européenne, qui produit à peu près 90 à 95% des biodiesels mondiaux. Bon, ces choses-là doivent être abandonnées, le bilan est fait, le bilan énergétique est peu favorable, le coût environnemental est élevé, et il y a une grande compétition avec la production alimentaire, parce que, évidemment, tout ceci doit servir à autre chose que faire des carburants. Il sert à nourrir la population mondiale. Compétition avec ressources en eau et l'impact sur l'effet de serre n'est pas si évident. Les carburants de deuxième et troisième génération, c'est de considérer, puisque la première génération n'est pas bonne, peut-être qu'on peut utiliser des plantes, par exemple, non comestibles ou les parties non comestibles des plantes. Alors c'est une bonne idée. Le problème, c'est que c'est technologiquement difficile, et là aussi, la chimie va intervenir. Il y a des recherches, aussi bien chimie que biotechnologie aussi. Là, c'est donc d'utiliser des résidus agricoles et forestiers ou des cultures qui sont dédiées à la production de ces carburants, donc des taillis à croissance rapide. Et en faisant cela, eh bien, là aussi, on est capable, par tout un tas de traitements, voie thermochimique ou voie biochimique, de produire de l'éthanol, de produire des hydrocarbures qu'on peut mélanger à l'essence et au gazole. Donc c'est très riche en toutes ces molécules, et ça on sait faire. Le problème, c'est que, ces parties non comestibles de la plante sont extrêmement résistantes à tous les traitements. Pourquoi ? Parce que ces parties-là sont constituées de matériaux dits ligno-cellulosiques. Vous voyez ici la plante, des cellules de plante, ici les parois cellulaires de ces plantes, et là on a des polymères extrêmement résistants que sont la lignine, la cellulose, l'hémicellulose, qui sont très très riches en sucre comme le glucose, mais qui sont extrêmement résistants au traitement. Donc c'est très difficile, et là aussi il faut développer des technologies. La troisième génération, d'une certaine façon, c'est ça. C'est le fait que, justement, les micro-organismes photosynthétiques, comme les algues et les cyanobactéries, donc ces micro-organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, qui sont responsables, à l'échelle de la planète, de l'oxygène que nous respirons. Ici, vous voyez où toutes ces micro-algues sont présentes à la surface des océans et qui produisent. Ça, ces couleurs indiquent l'activité de photosynthèse, qui produisent en permanence de l'oxygène et de la biomasse. Si on est capable de cultiver dans des fermes, vous voyez le type de ferme, ces algues et de ces cyanobactéries, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont capables de produire de l'hydrogène, mais aussi des quantités énormes de lipides. Ici, j'ai montré, peut-être vous le voyez, une cellule, des cellules en rouge d'une micro-algue, et en vert, ce sont carrément des gouttes d'huile qui sont excrétées par la cellule. Donc en permanence, ces micro-organismes produisent de l'huile qu'on peut récupérer, et c'est ce qu'on appelle les biodiesels de troisième génération. Le rendement est supérieur à celui des plantes. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme 50 000 litres d'huile par hectare contre 6 000 litres pour l'huile de palme. Ces micro-organismes participent à la fixation du CO2 sur la Terre, et il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire. Donc il y a des espoirs là-dedans, il y a beaucoup d'investissements au niveau des industriels sur cette stratégie. Voilà, alors, je ne vais pas aller plus loin. Dernier point sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est l'hydrogène et ce que je vais appeler la photosynthèse artificielle. Il y a un engouement pour l'hydrogène, il y a une bonne raison pour s'intéresser à l'hydrogène, même si il y a des périodes où cet engouement est plus grand, et puis d'autres périodes où ça tombe un petit peu, parce qu'il y a des problèmes technologiques, il faut s'y attaquer, et c'est ce qu'on essaye de faire modestement dans mon laboratoire, et que un certain nombre de laboratoires aussi développent. Pourquoi c'est intéressant l'hydrogène? C'est parce que lorsque vous le brûlez, ça c'est une réaction de combustion, hein, de la même façon qu'on brûle du pétrole, ici vous brûlez de l'hydrogène. Cette réaction, d'une part, conduit à une très très grande production d'énergie, donc il y a énormément d'énergie dans la molécule d'hydrogène, et d'autre part, le produit de la réaction, c'est uniquement de l'eau, donc c'est une réaction très propre, il n'y a pas de production de gaz à effet de serre. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'avantages de l'hydrogène, par exemple l'énergie massique. Vous voyez, la quantité d'énergie par kilogramme d'hydrogène est 2,7 fois plus grande que le pétrole, 2,4 fois plus grande que le gaz naturel et 5 fois plus que le charbon. Donc c'est un avantage. En même temps, gros désavantage, c'est un gaz. Donc si je vous avais donné des chiffres par volume, ça serait beaucoup plus défavorable à l'hydrogène. Donc tous les problèmes de transformer le gaz en état plus condensé pour le gérer dans des grosses quantités. Le problème, c'est que ce n'est pas comme le pétrole. On creuse, on a du pétrole, ou le charbon. Il n'y a pas d'hydrogène à la surface de la Terre. Mais il y a des quantités d'atomes d'hydrogène absolument gigantesques dans l'univers et sur la Terre, et en particulier dans l'eau des océans, mais associées avec des atomes d'oxygène, donc avec cette formule H2O. Donc l'idée, c'est de récupérer l'hydrogène à partir de l'eau pour ensuite l'utiliser. Mais évidemment, récupérer de l'hydrogène à partir de l'eau, ça veut dire consommer de l'énergie. Donc quand on parle de l'hydrogène, faites très très attention, je lis des choses parfois tout à fait inexactes. Avec la stratégie hydrogène, on aura comme énergie à utiliser au mieux que l'énergie qu'on aura dépensée pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Alors évidemment, toute la question, c'est de savoir quel type d'énergie j'utilise pour faire cette transformation. Et de préférence, il faut que ça soit une énergie abondante, renouvelable, et sinon on retombe sur le même problème. D'où le soleil. Alors, juste un peu d'histoire comme ça, vous voyez, en 1783, Lavoisier, Laplace, Meunier, qui, devant l'Académie des sciences, à Paris, font un rapport sur la synthèse de l'eau et ils définissent l'eau comme un mélange d'air inflammable et d'air vital. Évidemment, l'air inflammable, c'est l'hydrogène, puisqu'en présence d'oxygène, il brûle. Et ce faisant, il produit de l'eau en brûlant, et c'est pour ça qu'est donné ce nom pour la première fois, hydrogène. En 1784, les mêmes reviennent devant l'Académie pour présenter un procédé quasi-industriel de production d'hydrogène en grande quantité, par action de l'eau sur le fer rouge. En fait, c'est du fer qui a le potentiel de réduire l'eau en hydrogène, et c'est donc les premiers travaux. J'aime citer cette vision, comme d'habitude, de Jules Verne, dans L'île mystérieuse, en 1874, quand Pencroff dit « Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ?» Vous voyez, déjà, à l'époque, il se préoccupait de la limitation des ressources en charbon. Il y a Cyrus Smith qui dit « L'eau !»« Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Alors, c'est partiellement juste, hein, parce qu'évidemment, ce qu'on brûlera, ce n'est pas l'eau, hein, comme le dit Jules Verne, c'est l'hydrogène qu'on va sortir de l'eau. Voilà. Alors, l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est pas de le brûler simplement, on peut le brûler, mais c'est peut-être de convertir cette énergie chimique en énergie électrique. Et c'est ce qui se fait dans ce qu'on appelle les piles à combustible ou les piles à hydrogène, qui peuvent alimenter déjà des bus, des voitures, etc., etc. Et une pile à combustible, donc c'est une pile à hydrogène, c'est une pile dans laquelle, à l'anode, on amène de l'hydrogène. Cet hydrogène relâche ses électrons, ils circulent ici et finissent à la cathode où ils réagissent avec l'oxygène pour donner de l'eau. Le bilan, si vous faites la somme de ces deux réactions, c'est celle-ci, c'est la même que celle que je vous ai indiquée. Sauf que dans ce cas-là, cette énergie-là n'est pas lâchée sous forme de chaleur, mais lâchée sous forme d'énergie électrique. Voilà. Le problème, alors j'y reviens, comment on le produit ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de l'hydrogène qu'on utilise dans le monde et dans les laboratoires, c'est ce qu'on fait avec la réaction de reformage, dit de reformage, c'est-à-dire qu'on utilise, on n'utilise pas l'eau, on utilise du méthane, parce que ce méthane est riche en atomes d'hydrogène, vous voyez. Donc, si on fait cette réaction, mais vous voyez, à 800 degrés, 20 bars, avec des catalyseurs à base de nickel, on produit de l'hydrogène, mais en même temps, on produit du CO2. Donc ça, il faut arrêter. Donc il faut trouver d'autres formes. Alors on peut le faire à partir de la biomasse, c'est plein d'hydrogène, par des réactions de thermochimie, de gazéification. On peut le faire en utilisant le nucléaire ou des énergies renouvelables par électrolyse, et je vais surtout parler de là, ou on peut le faire à partir de l'eau et uniquement de la lumière par photolyse, un peu comme ce que je vous ai indiqué, ce que font les micro-organismes, les micro-algues et les cyanobactéries quand ils prennent les électrons de l'eau pour les envoyer non pas sur le CO2, mais sur l'eau pour faire de l'hydrogène. Voilà. Alors, là aussi, toutes ces nouvelles technologies de production d'hydrogène ne seront viables que si on arrive, là aussi par du travail de recherche et notamment avec la chimie, en diminuant le coût. Pour le moment, le reformage, c'est 1 dollar par kilogramme d'hydrogène. Et donc, toutes les autres technologies, vous voyez, électrolyse, biomasse, photovoltaïque, cellules photoélectrochimiques, etc., on est plus proche de 5-10 dollars par kilogramme d'hydrogène. Donc, c'est encore trop et ça ne passe pas dans le marché. Donc, il faut baisser les prix si on veut y aller. Voilà. Alors, donc, première façon de faire, c'est de l'électrolyse. Donc là, je reviens au soleil en me disant c'est le soleil qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour produire de l'hydrogène avec du soleil ? Vous prenez du soleil, vous faites du photovoltaïque, c'est une façon de faire, et l'électricité que vous avez là, vous l'utilisez pour faire de l'électrolyse de l'eau en hydrogène, ou alors vous le stockez dans des bactéries, dans des batteries, et ces batteries sont, l'énergie des batteries est ensuite utilisée pour faire de l'électrolyse. Alors, qu'est-ce que c'est cette électrolyse ? Je suis sûr qu'une grande majorité d'entre vous a déjà fait la manip en première ou en terminale un jour, qui est d'appliquer une tension aux bornes de deux électrodes, et à l'anode, il y a un gaz qui se dégage, c'est de l'oxygène, et à la cathode, un autre gaz se dégage, et c'est de l'hydrogène. En appliquant une énergie électrique, on décompose l'eau en oxygène et en hydrogène. Alors, là, ce sont des systèmes qui fonctionnent. Rendement 80%, ces dispositifs existent, ces technologies existent. Il n'y a pas besoin de les inventer. La question, c'est toujours, quelle est l'énergie que j'applique ici ? Le mieux, ça serait que ce soit du soleil. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça veut dire, je vous ai parlé de piles à hydrogène, de piles à combustible, et je vous ai parlé d'électrolyseurs. J'ai essayé de faire un petit calcul. Vous prenez une maison, plutôt d'une famille bien portante, hein, quand on voit la tête de la voiture, enfin bon, et la maison. En France, je prends ce calcul, entre 2500 et 3100 kWh par an et par famille. Et la question que je pose, c'est, si j'ai des panneaux photovoltaïques que j'éclaire, je crée de l'électricité, donc je l'utilise, et puis ou je ne l'utilise pas, mais je fais de l'électrolyse, donc j'ai un électrolyseur dans la maison, il est ici. Cet électrolyseur me produit de l'hydrogène. Et puis ensuite, cet hydrogène, dans un deuxième temps, je l'utilise avec une pile à combustible. À nouveau, ces deux technologies existent. Elles coûtent encore trop cher, mais elles existent. Et j'alimente la maison avec cet hydrogène que j'ai accumulé. La question que je vous pose, c'est combien pensez-vous qu'il faille de litres d'eau à électrolyser par jour pour faire vivre cette maison, sans se raccorder au réseau, sans nucléaire et sans... Alors on pourrait imaginer 100 litres, 1000 litres, etc. Donc vous avez la réponse, je ne détaille pas le calcul, mais pour cette famille-là, c'est 2,3 litres d'eau qu'il suffit avec des panneaux voltaïques d'électrolyser et de stocker stocker l'énergie solaire ainsi sous forme d'hydrogène qu'on peut utiliser ensuite avec une pile à combustible. Et vous voyez, véritablement, si vous faites le calcul, pour une famille indienne pauvre, c'est la moitié de ça qu'il faut électrolyser pour soutenir les besoins énergétiques par jour. Évidemment, l'idée, c'est que ça monte, que cette famille ait plus d'énergie. Et deuxièmement, évidemment, aujourd'hui, il faudrait lui fournir les panneaux photovoltaïques, les piles, les électrolyseurs, parce qu'évidemment, ça coûte trop cher. Voilà. Alors, j'en viens à une problématique, et je vais terminer là-dessus, qui est importante. Voyez, pour le moment, je ne vous ai pas trop parlé d'un aspect qui est important dans ce domaine, c'est la catalyse. Voyez, ces réactions, elles sont simples. H2O donne H2, si je trouve l'énergie qu'il faut, de préférence soleil, ou bien H2 donne H2, et ensuite H2 donne H2O quand je récupère l'énergie qui est contenue dans la molécule d'hydrogène. Eh bien, ces réactions, qui sont toutes simples, elles sont en réalité beaucoup trop lentes. Sur le plan cinétique, c'est trop lent, parce que ce sont des processus multi-électroniques, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et donc, il faut des catalyseurs. Et aujourd'hui, le catalyseur utilisé, c'est le platine, dans tous ces dispositifs, électrolyse, pile à combustible, etc. Or, vous savez que le platine est un métal très rare, très cher, et je fais aussi un petit calcul. Imaginons qu'on veuille passer à un monde à hydrogène, et que toutes nos piles à hydrogène fonctionnent avec du platine. On fait un calcul, il y a à peu près 700 millions de véhicules à la surface de la Terre. Si vous faites le calcul, si vous vous dites, on est dans un monde où il n'y a plus que de l'hydrogène, je mets dans chacun de ces véhicules, je mets une pile à hydrogène qui va faire fonctionner la voiture. Et on sait à peu près quelle quantité de platine il y a dans chaque pile. Eh bien, vous voyez que les calculs montrent qu'en 15 ans, on a consommé tout le platine qui est à la surface de la Terre, y compris en incluant un recyclage de 50%. Donc, si vous voulez, on est arrivé à cette problématique qu'il n'y a pas d'avenir à toutes ces technologies-là si on ne remplace pas aussi ces métaux nobles par d'autres catalyseurs. Et on s'est attaqué à ce problème, et c'est là que vient le concept dont a parlé Michel tout à l'heure, ce concept de chimie bio-inspirée. Pourquoi ? Parce que quand on s'est dit comment on va pouvoir faire pour remplacer les chimistes, on a essayé des tas de trucs. Les métaux nobles marchent bien, pas le platine, palladium, rhodium, tout ça. Mais bon, non, c'est pas possible de continuer avec ça. C'est la même chose que le pétrole. On arrivera au bout de ces ressources-là. Alors on s'est dit, mais finalement, dans la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des micro-organismes qui transforment l'eau en hydrogène. Et ils ont des catalyseurs. Mais c'est pas du platine, c'est pas du rhodium, c'est pas du palladium. D'ailleurs, il n'y a aucun de ces métaux dans le monde vivant. Et là, j'en viens, bon, c'est un peu compliqué, mais j'en viens à ces enzymes qui sont des hydrogénases, qui catalysent cette transformation des protons en hydrogène, donc les protons, c'est de l'eau, hein, et qui catalysent même la réaction inverse. Très efficacement, vous voyez, 9000 cycles catalytiques par seconde, donc ça va très vite. Cette enzyme transforme 9000 molécules d'hydrogène par seconde ou produit 9000 molécules d'hydrogène par seconde. Et quand on regarde, donc il y a un certain nombre de gens qui se sont attachés à comprendre comment étaient construites ces enzymes, et on s'est aperçu que ces enzymes contenaient non pas du platine et du palladium, mais du nickel et du fer dans un cas, ou deux atomes de fer dans l'autre cas. À partir de là, on s'est dit avec d'autres, il faut vraiment qu'on comprenne comment fonctionnent ces enzymes-là, parce que si on comprend, on va pouvoir inventer des catalyseurs à base de nickel et de fer qui vont faire cette chimie-là. Est-ce qu'on peut réduire le problème aussi complexe d'une enzyme comme ça à un petit catalyseur qu'on va inventer et qui contient du nickel ou du fer ou les deux ? Que se passe-t-il ? Ça n'avance plus. Si. Excusez-moi. Voilà. Étape suivante. Mettre un peu de temps. Non. Voilà. Eh bien, voilà un des plus beaux résultats de ce qu'on appelle la chimie bio-inspirée. J'essaye d'être le plus modeste possible, mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, dans ces enzymes, il y a du nickel. Donc on va prendre du nickel. Le soufre, c'est un peu embêtant, on va mettre du phosphore. Ça a des propriétés qui ressemblent. Par ailleurs, ici, il y a un atome d'azote, là je rentre un peu dans les détails, mais c'est pour vous montrer. Il y a un atome d'azote qui joue un rôle très très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a la nécessité de fixer des protons pour les transformer en hydrogène. Et ça, c'est très très bien, un atome d'azote à cet endroit-là. Alors on l'a introduit dans notre petite molécule. Et puis après, on s'est dit, il faut que cette petite molécule, elle aille sur une électrode. Et il faut faciliter les transferts d'électrons. Or, dans les enzymes, les transferts d'électrons, vous voyez, si vous prenez, ça c'est une photo de l'enzyme un peu différente, mais le site actif où il y a le nickel, où se fait cette réaction-là, est en connexion avec la surface de la protéine à travers des atomes métalliques, ce sont des clusters fer-soufre, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est des atomes de fer qui facilitent le transfert des électrons. Parce que vous voyez ici, dans la réaction chimique, il y a des protons, mais il y a aussi des électrons. Et alors on s'est dit, on va faciliter le transfert des électrons, et pour ça, on va coller notre complexe, alors il y a de la chimie derrière, à des nanotubes de carbone, qui sont des très très bons, là on est dans le domaine des nanotechnologies, qui sont des très très bons conducteurs d'électrons, et on va mettre tout cet ensemble-là sur une électrode. Et le résultat des courses, qui a été publié dans le journal Science, à la fin de l'année 2009, et là je remercie mon collaborateur Vincent Artero, qui est un chimiste absolument exceptionnel avec qui je travaille, on a découvert un catalyseur qui est bio-inspiré, comme vous avez pu le comprendre, qui est capable à la fois d'oxyder l'hydrogène dans une pile à combustible ou de produire de l'hydrogène dans un électrolyseur, qui fait des centaines de milliers de cycles catalytiques, qui est très stable, qui est compatible avec les technologies en cours, qui est résistant au monoxyde de carbone, parce que même le platine ne l'est pas. Alors, je pourrais vous dire, tout est merveilleux. Non, pas tout, pas totalement, parce que, pour le moment, il y a encore de faibles densités de courant. Il faut qu'on améliore les faibles densités de courant, et on travaille à ça. Mais c'est le premier catalyseur qui remplace le platine, qui peut remplacer dans ces dispositifs, dans les dispositifs dont je vous ai parlé, le platine, et actuellement au CEA, donc ces matériaux sont en train d'être développés dans des vraies piles à combustible et des vrais électrolyseurs. Voilà. Il s'avère qu'il y a d'autres résultats importants de la chimie. Je voudrais citer le travail de Dan Nocera au MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui lui a trouvé un catalyseur à base de cobalt. On n'est plus là avec le platine. À base de cobalt, qui est représenté ici, qui est un complexe de cobalt, je ne rentre pas dans les détails, pour faire l'autre réaction, l'eau qui donne de l'oxygène et des électrons. Vous vous souvenez qu'en effet, on tire les électrons de l'eau et que ces électrons sont ensuite utilisés pour réduire l'eau en hydrogène, pour faire la décomposition de l'eau en oxygène. Et donc, on peut imaginer, aujourd'hui, voilà deux grandes avancées de la chimie, très récentes, hein. Excusez-moi, j'aurais dû dire ici que c'est Science 2008. On peut imaginer, et j'ai pris cette figure du journal Science qui faisait un commentaire sur nos travaux, on peut imaginer une pile réversible avec, si vous voulez, ici, sur cette électrode, notre catalyseur, sur l'autre électrode, le catalyseur de Nocera à base de cobalt. Il n'y a plus de platine, il y a du nickel ici, il y a du cobalt. Et l'énergie issue de l'éolien, du photovoltaïque, du soleil, permet de produire de l'hydrogène à partir de l'eau et ensuite d'utiliser l'énergie qu'il y a dans l'hydrogène pour produire de l'électricité qui peut alimenter les utilisations finales. Voilà une application. Alors, je vais terminer, je ne sais pas, Michel, j'en suis où là ? 5 minutes, d'accord. Je termine sur l'autre aspect. Ici, vous voyez, je suis passé d'une façon ou d'une autre, je suis passé par l'électrolyse. C'est-à-dire, j'ai utilisé de l'électricité. Le dernier enjeu, enfin le nouvel enjeu, et ça ce sont des choses que je suis en train de mettre en place, de développer au Collège de France, c'est cette question-là. Pas passer par de l'électricité, mais directement du soleil, de l'eau, et produire de l'hydrogène. Alors, je vais laisser tomber ça. Excusez-moi. Et voilà. Et finalement, je vais terminer là-dessus. Je vais peut-être passer celle-là. Voilà. Finalement, notre rêve aujourd'hui, c'est un dispositif comme celui-là. C'est une cellule photoélectrochimique qui va faire de la décomposition de l'eau avec, à une électrode, c'est une photoanode, des matériaux, essentiellement, d'une part, un semi-conducteur, parce que je crois que là, ça ne sera pas du moléculaire, ça sera du matériau, et d'autre part, des catalyseurs de type nocera, des oxydes de cobalt, qui vont prendre la lumière, ce semi-conducteur, avec le photon qui arrive, envoie un électron dans la bande de conduction, cet électron va de l'autre côté, et sur la cathode, on a des catalyseurs ou des photocatalyseurs qui réduisent l'eau en hydrogène. Donc vous voyez, soleil, eau, et on produit un carburant qu'on peut utiliser ensuite. Ça, c'est des choses qu'on commence à faire, et le futur, c'est celui-là. Pardon, je voulais aller en arrière, et je terminerai là-dessus. Le futur, c'est celui-là. C'est plus de la décomposition de l'eau, mais là, c'est de prendre soleil, eau, CO2, et c'est plus difficile, mais c'est ça l'avenir, et produire de l'oxygène et des hydrocarbures, des produits de réduction du CO2. C'est la même cellule photoélectrochimique, évidemment pas avec les mêmes semi-conducteurs et les mêmes catalyseurs. À l'anode, pareil, on collecte l'énergie solaire, on excite les électrons, et de façon cinétiquement favorable, grâce à des catalyseurs de type nocera. Excusez-moi, j'aurais dû dire qu'ici, les catalyseurs, ça peut être mes fameux catalyseurs de nickel. Et les électrons s'en vont ici, et ici, on a des catalyseurs qui réagissent avec le CO2, qui le réduisent, et qui forment du formiate, du méthanol, du méthane, ou d'autres hydrocarbures. Ça, c'est le rêve pour le moment, mais c'est la direction qu'on est en train de prendre, et c'est un domaine qui est aujourd'hui en train de renaître, parce que des gens comme Jean-Marie Lenne, il y a presque 30 ans, se sont préoccupés de ces choses-là. Et puis, vous savez, il y a 30 ans, personne n'était intéressé par le problème du CO2 et de la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, ça renaît. Voilà les choses qu'on est en train de développer. Je conclue en disant, la chimie, oui, pour toutes ces questions-là, va jouer un rôle absolument prépondérant en développant des nouveaux matériaux, des nouveaux semi-conducteurs, des nouveaux catalyseurs, des matériaux pour le stockage du CO2, de l'hydrogène, enfin, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Marc Fontcave pour cette belle conférence sur l'hydrogène, ses possibilités, la nature à portée de main et portée d'œil. La séance des questions et des réponses peut commencer. Oui, je vois ici une question au premier rang. S'il vous plaît, un micro.
Oui.
Oui, voilà. Des micros. Hein.
La dame au premier rang en rouge, au 1, 2, 3, 4, 5, 5e rang. Et j'ai vu toute une série de questions là derrière, oui. Voilà.
Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question au sujet de la pureté de l'eau qui serait exigée pour cette réaction. Est-ce qu'il faut de l'eau très pure ?
Très très intéressante question, parce que ça va me permettre de vous enthousiasmer encore un peu plus. Parce que nous on ne l'a pas fait, c'est des choses qu'on a en tête, mais Nocéral a fait cette démonstration. Il a pris de l'eau polluée, et ça marche. Il produit de l'hydrogène à partir de l'eau polluée, et quand il rebrûle l'hydrogène, l'eau est absolument pure. C'est-à-dire qu'on peut rêver, imaginer que ce processus d'électrolyse ou de photolyse produisant de l'hydrogène et ensuite utilisation de cet hydrogène qui, de fait, produit de l'eau qu'on pourrait récupérer, est un mécanisme de purification de l'eau. Voilà.
Alors, une question un peu plus... Oui ?
Pourquoi est-ce que dans vos expériences de photoélectrolyse, vous avez été obligé de resynthétiser un catalyseur au nickel ou au cobalt et que vous n'avez pas utilisé directement les hydrogénases?
Merci. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est une bonne solution. C'est une bonne problématique. De très très bons laboratoires dans le monde, je pense à Fraser Armstrong à Oxford, a été un pionnier dans l'utilisation, l'exploitation des hydrogénases qu'il a pu coller sur des électrodes et qui fonctionnent. Et ce qu'il a démontré, c'est que ces hydrogénases se comportent vraiment comme le platine. Il a des courbes qui superposent entre le comportement électrochimique des hydrogénases sur une électrode et le platine. Comme si la nature, n'ayant pas de platine à sa disposition, a inventé une forme de platine qui sont ces hydrogénases. Maintenant, moi je ne suis pas allé là-dedans parce que je suis un peu sceptique sur l'application tant qu'on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes. Le problème majeur étant, à côté du fait que ce sont quand même des enzymes qui sont difficiles et coûteuses à purifier, c'est le fait qu'elles sont extrêmement sensibles à l'oxygène. Et donc, comme vous voyez qu'il y a de l'oxygène qui se balade là-dedans, elles sont assez rapidement inactivées. Alors, il s'avère que ces derniers mois, dernières années, des chercheurs, analysant la biodiversité, ont été capables de trouver des hydrogénases qui étaient un peu moins sensibles. Donc, on peut espérer que peut-être, un jour, quelqu'un trouvera une hydrogénase parfaitement résistante à l'oxygène. Et pour le coup, là, ça deviendra vraiment intéressant. Mais pour le moment, c'est vraiment un problème. Notre catalyseur est très stable à l'oxygène.
Oui, ici.
Oui, dans la même idée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de redécouvrir la manière de produire du pétrole? Je vois que avec
bien sûr.
La photolyse de l'eau, vous faites du pétrole. Donc, oui. est-ce que vous ne pouvez pas reproduire la méthode naturelle par laquelle le pétrole a été produit et donc l'accélérer peut-être et vous l'inspirer?
Oui, non, mais absolument.
Le dernier exemple, c'était ça, effectivement.
Oui, oui. Ce qu'on veut, c'est si vous voulez. Pour le moment, franchement, malheureusement, il n'y a pas mieux que le pétrole. Densité volumique d'énergie, donc c'est un liquide, facile d'utilisation, la sécurité à peu près est excellente. Quand je parle de photosynthèse artificielle, mon idée, c'est je veux faire du pétrole à partir du CO2, comme la nature l'a fait en milliards d'années. Alors c'est pas facile, parce qu'on veut le faire vite, mais du point de vue de l'effet de serre, là on est neutre, puisqu'on utilise le CO2 qu'on vient de produire, on le remet dans les hydrocarbures, on le rebrûle, et ainsi de suite.
Oui,
merci.
Question
vous
ici.
Avez parlé des recherches sur les catalyseurs, les hydrogénases. Est-ce qu'il y a des travaux sur la fabrication de chlorophylle améliorée, d'ersatz, ou de pigments des cyanobactéries, les pigments bleus, qui capteraient dans de nouvelles longueurs d'onde? Est-ce qu'on peut jouer sur les capteurs de lumière?
Oui, je ne suis pas sûr que j'ai ça. Oui, si vous voulez, voilà, peut-être ça. Voilà nos tout derniers travaux. Oui, alors, deux choses. Les biologistes certains biologistes travaillent à améliorer le rendement de la photosynthèse naturelle en manipulant la nature et la taille des molécules genre chlorophylle toutes ces antennes qui récupèrent l'énergie solaire. Donc là, il y a un travail de manipulation de ces organismes. D'autre part, en effet, les chimistes ont étudié tout un tas de molécules qui absorbent la lumière. C'est des dérivés de chlorophylle, mais ça peut être des porphyrines, ça peut être des phtalocyanines. Et d'une certaine façon, les semi-conducteurs, dont je n'ai pas eu le temps de parler, je l'ai évoqué très largement, les semi-conducteurs sont des formes de chlorophylle. D'accord ? Ici, je vous... Non ?
Oui, oui, oui.
Ici, je vous montre une des molécules qu'on est en train de faire, parce qu'on a trouvé à la place du nickel, on a trouvé un autre complexe de cobalt, c'est du cobalt, qui est un très très bon producteur d'hydrogène, un très bon catalyseur pour la production d'hydrogène, et on est en train de construire cette électrode, dans laquelle cette molécule est accrochée, vous voyez, à ce complexe de ruthénium, qui est, Michel le sait très bien, un très très bon photosensibilisateur, qui est capable de récupérer l'énergie lumineuse, c'est une forme de chlorophylle. C'est un modèle de photosensibilisateur. C'est un photosensibilisateur. Donc, il y a énormément de recherches là-dessus.
Bien, question ici à gauche.
S'il vous plaît, vous avez évoqué très rapidement, une échappée de quelques secondes, sur les produits, les plantes qu'il s'agissait de faire entrer en voie de combustion pour produire de l'énergie. Alors moi, je veux vous poser cette question, elle est relativement la canne à sucre dont on parle, dont j'ai entendu parler beaucoup. Est-ce qu'il y a une énergie qui... c'est peut-être pas votre domaine ponctuellement de compétence la plus grande, la plus absolue, c'est pas l'hydrogène. Est-ce que vous avez quelques informations à donner sur la combustion de la tige de la canne à sucre et son caractère performant d'énergie, surtout si elle n'est pas trop polluante?
Non, je ne peux pas vous donner... Excusez-moi, ça marche, mais... Oui. Non, je ne peux pas... Non, je n'ai pas ces chiffres-là, donc je ne peux pas vous répondre. Si vous voulez... Il y a un vrai débat sur l'utilisation de la biomasse pour faire des carburants. J'ai évoqué la compétition avec la production alimentaire. Effectivement, vous avez raison, il faut parfaitement bien quantifier les énergies qu'on tire de telle ou telle source de biomasse pour rejeter ou au contraire garder la stratégie. Il y a une chose dont il faut avoir conscience que moi j'ai réalisé il y a peu de temps. Je crois d'ailleurs que j'avais... si je reviens... Je voudrais revenir... excusez-moi, ça va aller vite. Non, ça va pas très vite. Il y a un passage, voilà, il y a un passage difficile ici, mais après ça va plus vite. J'y arrive. Voilà. Oui, j'ai mis ça tout là-haut parce que je voulais en parler puis j'ai oublié. Allez voir ce bouquin, Daniel Naon, dont le titre est « L'épuisement de la Terre, un enjeu du XXIe siècle ». Je crois que c'est un problème extrêmement important. C'est-à-dire que, à nouveau, quand on parle de biomasse, on parle de biocarburant, on parle de l'utilisation d'une surface importante de la planète dédiée à la production des carburants. Donc, on évoque toujours la compétition avec la production alimentaire. Évidemment, ça ne sert à rien de produire des carburants si on ne peut pas manger. Et il y a un autre aspect, c'est l'épuisement de la Terre. On est en train d'épuiser la Terre. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai été tout à fait impressionné par les données de Naon. Et donc, là aussi, il faut faire très, très attention. Donc, mon idée aujourd'hui, mon impression aujourd'hui, c'est que les biocarburants ne constitueront qu'une petite proportion des 25-26 terawatts qui sont nécessaires. Voilà. C'est ce que je pense aujourd'hui, mais je ne suis pas assez spécialiste, je ne peux pas en dire plus, c'est une impression comme ça. Désolé, mais je n'ai pas les détails. Mais c'est important.
Bien. Une question encore là-bas.
Oui.
ce sera sûrement la
dernière.
C'est
plutôt technique. Vous semblez vous orienter vers la photoélectrolyse. Vous ne pensez pas qu'il faudrait mieux s'orienter vers des réactions catalytiques que l'on peut faire sur une grande surface, alors que la photoélectrolyse, vous aurez toujours une surface de l'électrode limitée, et par conséquent, vous aurez du mal à produire en grande quantité.
Oui, alors ça, c'est des choses qu'il faut considérer. Si vous voulez, il y a peut-être une idée, qu'il faut avoir en tête. Oui, quand on parle d'énergie, il y a à la fois des applications très locales et des applications beaucoup plus larges. Là aussi, bon, ces photoélectrolyseurs, peut-être en effet, ils ne seront utilisables qu'à une échelle très, vous voyez, très 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 limitée. J'ai parlé en introduction de la nécessité de concentrer l'énergie solaire. Ici, effectivement, tel que je l'ai montré, on reste avec nos 170 watts par mètre carré. Effectivement, c'est insuffisant. Donc, il faut trouver des stratégies aussi pour concentrer. Le problème, c'est que, si vous voulez, pour le moment, ce qu'il faut démontrer, c'est il faut faire la preuve du concept. Et elle n'est pas encore faite aujourd'hui de cette photosynthèse artificielle. Une fois qu'on aura démontré cela, je pense qu'il faudra répondre aux questions que vous soulevez. Bon. Néanmoins, on attaque ces problèmes aussi parce que sur le plan intellectuel, ils sont particulièrement intéressants. C'est des problèmes de catalyse, de photocatalyse, etc. Mais vous voyez que j'ai beaucoup insisté sur cette maison où avec des panneaux photovoltaïques et des électrolyseurs et des piles à combustible, on peut gérer une consommation énergétique à l'échelle d'une maison sans rentrer dans une gestion des infrastructures extrêmement forte.
Bien, eh bien, merci Marc Fontcave pour ses réponses et ses questions. Remercions-le ensemble.